c'est bon pour la santé.
Bonjour et bienvenue à C'est bon pour la santé. Ici Camille Chai, votre animatrice, en compagnie de mon co-animateur François Baruel. Bonjour François.
Bonjour Camille.
Tu vas bien?
Très bien, toi?
Oui, bien, merci. Alors, écoutez, en rafale, aujourd'hui, nos intervenantes sont Annick Filion, qui est toujours avec nous, qui nous a mené un vox pop qui va porter sur le syndrome borderline. Ensuite, Myriam Daguzan-Bernier, elle nous livre un coup de gueule qui s'intitule « Le non-civisme des réseaux sociaux ». Et nous commençons cette émission toujours en beauté avec un sujet, je dirais, qui préoccupe un grand nombre de personnes et on parle du poids. D'ailleurs, on a avec nous en studio Dr Sénécal, Catherine Sénécal, qui vient nous parler de ses livres « Cessez de manger vos émotions » et « Ton poids, on s'en balance » paru aux éditions de l'Homme. Et en seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Stéphanie Perron, qui, elle, vient nous parler de son livre « Corde raide », qui traite sur le syndrome borderline des éditions de Mortagne. Alors, bienvenue à vous tous et merci de passer cette heure avec nous. Et vous le savez, hein, pourquoi vous nous écoutez? Eh oui, parce que ce qu'on vous présente, c'est bon pour la santé. Docteur Catherine Sénécal, bonjour.
Bonjour Camille.
Alors Catherine Sénécal, docteur en psychologie et sa complice, Isabelle Huot, ont écrit un livre « Cessez de manger vos émotions » publié aux éditions de l'Homme. Elle a travaillé comme psychologue dans le milieu hospitalier et s'est orientée vers la pathologie alimentaire avec l'ANEB, l'anorexie et boulimie du Québec. Bonjour Catherine Sénécal.
Bonjour.
Sénécal.
Oui.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous n'avons pas énormément de temps malheureusement, parce que c'est le principe de l'émission, pour comprendre ce que vous expliquez très bien dans votre livre. Le premier, c'est « Cessez de manger vos émotions ». On commence tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie « Cessez de manger vos émotions » ?
C'est une manière populaire, disons, d'aborder l'hyperphagie boulimique, qui est le troisième trouble alimentaire dans notre fameux DSM, notre manuel diagnostique pour les psychologues et les psychiatres, où on parle finalement des gens qui font des compulsions alimentaires, qui perdent le contrôle finalement face à l'alimentation, puis qui mangent beaucoup plus que ce qu'ils avaient planifié au départ.
C'est une forme de craving. J'y reviens toujours, hein, ce genre de choses, parce que ça manifeste probablement d'une angoisse quelque part derrière. Et ce qu'on trouve dans le craving des alcooliques ou des addicts, c'est une forme de craving?
C'est un petit peu différent dans le sens où les troubles alimentaires ont des bases génétiques. Donc, il y a une sensibilité génétique à développer un trouble alimentaire comme ça. Mais en plus, l'autre différence, finalement, c'est que comparé aux alcooliques ou aux toxicomanes, qui l'objectif ultime est d'arrêter de consommer. L'objectif ultime est de ne plus prendre une goutte d'alcool ou de drogue de leur vie. La nourriture, on peut pas faire ça parce que l'ennemi est pas la nourriture. Finalement, l'ennemi est la privation. Et la croyance qu'il faut finalement se restreindre sans arrêt, ce qui va déclencher des compulsions alimentaires. Donc ça, c'est la première distinction, finalement.
Est-ce que c'est pas, vous dites que c'est inscrit dans les gènes, est-ce que c'est pas plutôt une espèce de d'éducation ou dans le non-dit, ou dans l'attitude des parents plutôt que génétique?
Mais c'est biopsychosocial, hein, comme beaucoup des problématiques qu'on en sait de plus en plus. C'est qu'il y a une fonction qui est génétique, il y a finalement un déclencheur génétique, mais il y a également des facteurs qui vont être sociaux, des facteurs culturels aussi. Puis des facteurs qui, quand tous les autres composantes sont rassemblées, le cerveau va se déséquilibrer au niveau de la sérotonine et déclencher des compulsions alimentaires à ce moment-là.
D'accord. Vous parlez d'hyperphagie, d'alimentation émotionnelle, d'épicurisme. Et en quelques mots, quelle est la différence? L'épicurisme, c'est plutôt sain, puisque c'est la préparation justement d'un plaisir et justement la jouissance.
On a amené ces concepts-là juste pour faire une distinction, parce que des fois, les gens, ils pensent que quand on mange trop, nécessairement, c'est pathologique. Mais ça ne l'est pas nécessairement. Une compulsion alimentaire qui est reliée à un trouble alimentaire, c'est vraiment un sentiment de perte de contrôle, une culpabilité intense, un sentiment de dégoût. La journée elle est réussie ou elle est échouée en fonction de qu'est-ce qu'on a mangé. Donc, ça a vraiment une saveur très noir ou blanc. Mmh. Versus l'épicurisme, il y a plein de gens qui vont manger plus puis manger des aliments plus riches puis qui n'ont aucun sentiment de mal-être associé à ça.
Culpabilité.
Donc,
aucune
culpabilité. C'est ça. C'est du plaisir. Donc, ce n'est pas nécessairement pathologique. Puis, on a le côté alimentation émotionnelle qui peut être on s'ennuie, on est fatigué, on va manger un peu plus, mais il n'y a pas nécessairement le côté punitif associé. Donc, on ne va pas arriver en se disant je suis une mauvaise personne parce que j'ai mangé plus.
C'est ça. C'est vraiment le maître mot, c'est punitif.
Oui.
Et vous parlez d'ailleurs d'une fille qui s'appelle Manon, qui suit tous les régimes et puis finalement, elle fait varier de plus ou moins 30 livres son poids régulièrement. Mais elle n'arrive jamais à se stabiliser. C'est un petit peu tout le monde. Tout le monde est un petit peu variant comme ça, non? Il y en a beaucoup.
Mais c'est qu'on sait que chaque période de privation laisse une trace au niveau du corps. Mm-hmm. Donc, à chaque fois qu'on rentre en privation, que ce soit un régime très, très restrictif ou est-ce qu'on fait des grandes variations de notre poids naturel, bien, après ça, c'est plus difficile de retrouver notre poids naturel de départ. Donc, on joue un petit peu avec notre poids génétique à chaque fois. Donc, ça laisse des traces.
Donc, ça veut dire qu'en fait, on reste, si on se prive et qu'on reste sur sa faim, on augmente les proportions après?
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une période intense de privation, ce qu'on voit dans les études, c'est qu'on se prive, on se prive, on se prive, on fait descendre le poids. Et après ça, la personne va reprendre plus de poids que ce qu'elle avait au départ. Donc, il y a l'espèce d'effet élastique. Là,
ça crée un dérèglement complètement.
Oui, exactement.
Il n'y a plus de repères.
Exactement. Plus c'est drastique, plus c'est violent comme forme de restriction, mm-hmm. et plus le contre-coup revient raide.
Donc, plus on se prive, plus on mange.
Oui.
C'est assez paradoxal quand même.
Mm-hmm. Mais c'est l'exemple de l'élastique que je mentionne. Plus on tire d'un côté, plus il rebondit fort de l'autre. Donc, l'idéal, c'est d'éviter la privation, éviter les régimes et plutôt faire des changements durables si on constate qu'on a été un petit peu trop dans le côté épicurien, d'arriver justement à avoir du plaisir dans différentes sphères de notre vie, puis d'éviter de vouloir régler finalement un surpoids avec la privation alimentaire. Au contraire, d'enrichir notre vie de différents sports, de différentes activités, de l'enrichir donc et d'éviter d'être pris dans un mécanisme où est-ce que quand on s'ennuie, on va manger.
Oui. Justement, vous dites oublier les régimes, les mettre de côté. Donc, c'est rassurant pour pas mal de monde qui sort des régimes, mais comment est-ce qu'on peut remplacer les régimes? Ou faut-il les remplacer ou carrément ne plus penser à tout ça?
Mm-hmm. Mais on va manger normalement, déjà, en partant. T'sais, souvent, les gens ils pensent que les gens qui font des grosses compulsions alimentaires le soir, c'est parce que c'est du monde qui perd le contrôle ou plein de stéréotypes un petit peu négatifs. Alors que finalement, quand on regarde, c'est pas mal les mêmes types de journées de privation que les gens qui sont, par exemple, en anorexie. Là, dans la journée, ils vont manger très, très, très peu. Mmh. Mais le soir, les compulsions alimentaires vont être vraiment grandes.
Ouais.
Donc, souvent, la première étape, c'est de se sortir de cette espèce de privation-là dans la journée et de régulariser l'alimentation normale. 3 repas, 3 collations aux 3 heures. Donc, on instaure un message à notre corps qu'il n'y aura plus de privation, il n'y en aura plus de famine.
On veut aller plus retrouver l'équilibre.
Exactement. Ouais. On le rassure, finalement.
Oui. Écoutez, je vous propose, on va aller écouter une petite chanson et on vous revient tout de suite après.
Il y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Il y en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Il y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis bien partout quand je mange. Quand je m'ennuie, moi je mange. Même dans mon lit, moi je mange. Mais il y a des jours où je suis complexée. Je me trouve pas bien, bien sexy. Quand je me regarde le profil dans le miroir, j'irai me cacher au fond d'un armoire. Je peux plus monter l'escalier. j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Moi, je mange et j'ouvre mon radio. Puis je me fais un bon snack. J'écoute Ginette Renault. Puis je mange du Cracker Jack. Mais il y a des jours où j'en ai assez. Je voudrais m'arrêter de manger. Mais si je me rends à 336, le monde y verra peut-être que j'existe. Oh! Il y en a d'autres qui font jamais rien, moi je mange. Et j'allume mon fourneau, puis je me fais une belle tarte. Je m'en coupe un beau morceau, puis j'appelle ma tante Marthe. Puis tous les deux, on se met à manger. Manger comme des défoncés. Il y a plus d'autres choses qui nous intéressent depuis qu'on mesure 90 autour des fesses.
C'est l'émission C'est bon pour la santé. Nous sommes actuellement avec Catherine Sonécal, qui est docteur en psychologie et qui a écrit le livre Cessez de manger vos émotions. Pour le moment, nous parlons de celui-ci. Donc nous étions à... Je voulais vous poser une question importante, c'est comment faire pour être plus serein devant la nourriture, ne pas penser au régime en permanence, et comment faire pour vivre un poids stable sans régime. C'est-à-dire les lignes directrices du sans-régime.
Bien, la première étape, comme on mentionnait juste avant la pause, c'est notre 3-3-3. Trois repas, trois collations aux trois heures. Donc, on régularise notre alimentation, on s'assure de donner un flot continu et non en grande quantité d'alimentation. Donc, certains aliments équilibrés, on va se renseigner sur l'assiette équilibrée, justement, là, où on a un équilibre en termes de féculents, de protéines, de fruits et légumes, un peu de laitage. Donc, un équilibre de base pour ne pas manquer de protéines ou manquer de féculents, ce qui fait qu'après ça, on est un petit peu en privation déjà. Donc, on régularise le contenu et les quantités. Après ça, on s'assure de, quand on n'est pas dénutri, de réintégrer justement des aliments plaisir, mais d'une manière saine, dans le sens où on va manger justement notre pointe de tarte au pacane en pleine conscience, au soleil, avec un bon latte, avec des amis, et on va arrêter de manger les aliments interdit, qui pour nous, on pense qu'on va prendre du poids si on mange dans un contexte où c'est honteux, caché, en perte de contrôle, seul. Donc, on remet ça sur la traque sociale.
Oui. Mais qu'en est-il le déjeuner? Parce que vous dites que c'est important de prendre son petit déjeuner, mais il y a des études aussi qui ont démontré que si on n'a pas faim, on n'est pas obligé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Il faut se méfier des études comme ça parce que il faut vraiment aller prendre le temps de lire les méta-analyses, ce que je fais. Donc, les méta-analyses, à ce moment-là, ça rassemble des centaines d'études ensemble pour vraiment analyser une question. Parce que si on veut trouver une réponse qui va dans le sens qu'on cherche, on va en
trouver
toujours.
Oui.
Donc, il faut prendre le temps de regarder les méta-analyses et de regarder la méthodologie. Donc, comment les études ont été faites. Et dans ce cas-ci, ce qu'on sait, c'est justement que le déjeuner est associé avec l'obésité. C'est la seule donnée qui ressort comme étant constante, que si on ne déjeune pas, on va prendre du poids. Moins on mange dans la journée, plus il y a de compulsions qui suivent. Donc, quand on fait le bilan calorique, ça finit par être plus important en compulsion, toujours. Et le contenu, finalement, va être moins équilibré aussi. Mm-hmm. C'est rare qu'on fait une compulsion de céleri. Hein? Fait que, si on compare à ce moment-là, en s'assurant, on commence la journée avec justement un apport normal de un déjeuner équilibré et tout, on s'assure de nourrir notre cerveau aussi. C'est le matin qui a le plus besoin de féculents, notre cerveau. Puis après ça, ça donne le ton pour le reste de la journée aussi. on finit la soirée en n'étant pas dénutri.
Oui, parce qu'en fait, je vous disais ça parce que j'ai lu justement une méta-analyse à propos du déjeuner, de l'importance du déjeuner, sachant que la plupart du temps, comme on préconise la publicité, les lobbying des céréaliers, veut qu'on avale des quantités astronomiques ou importantes de céréales au déjeuner qui sont absolument à proscrire, justement, parce que ça n'est pas du tout ce genre de choses. Et cette méta-analyse donnait le résultat, c'est que, en fait, les gens qui ne déjeunaient pas parce qu'ils n'avaient pas faim, mais qu'ils pouvaient manger après au dîner, finalement, ils avaient le même poids que les autres qui suivaient ces recommandations-là. Et même, il y avait une toute petite différence, mais qui n'était pas significative du tout, mais qui avait une toute petite différence malgré tout.
Mais ça serait intéressant aussi de comparer les gens qui mangent l'assiette équilibrée comme déjeuner.
Oui, c'est
en
vrai,
comparaison.
C'est vrai.
Dans le sens où si on a une protéine avec un pain complet, avec à ce moment-là certains fruits, avec quelque chose à boire d'équilibré aussi. Donc, est-ce que justement, on arrive aux mêmes données? Là, moi, je serais bien curieuse.
Justement, parce que... On n'a pas faim, on a faim, mais en fait, on n'est pas forcément obligé de manger la même chose tous les matins. Est-ce que justement, appétit, faim et satiété, comment s'y retrouver?
Exactement. Puis c'est un commentaire que la plupart de mes clients m'ont toujours fait. Oui, mais j'ai pas faim le matin. Est-ce que je suis obligée de manger? Ou j'ai pas le faim entre les repas pour prendre des collations? C'est-tu vraiment nécessaire? Mais il faut penser à notre corps comme étant une machine hyper efficace. Donc, c'est sûr que si... il a faim, on ne le nourrit pas. Le matin, au réveil, il a faim, on ne le nourrit pas. Il a faim, on ne le nourrit pas. À un moment donné, il va arrêter d'émettre le signal de faim. Il est hyper efficace. Donc, il va arrêter de demander quelque chose qu'il le sait qu'il n'y aura pas.
Qu'on ne lui donne pas.
Voilà. Ouais. Fait qu'il devient efficace. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas besoin. Donc, c'est ça la distinction à faire. C'est que quand on mange de manière mécanique pendant un temps, avec notre 3-3-3, à un moment donné, tout dépendant à quel point on a été longtemps dans le déséquilibre, la faim revient. Et à ces moments-là de 3-3-3, je peux vous dire sensiblement l'heure en fonction de mon niveau de faim.
Wow.
C'est vraiment, on devient timé comme une horloge. Puis c'est vraiment régulé comme ça.
Donc c'est ça, il faut se nourrir régulièrement avec des doses prescrites, si je puis dire, et on va avoir de nouveau cette sensation de faim, donc aussi la sensation de satiété.
Oui, exactement.
Okay, tout se met en ordre.
C'est pris ensemble. C'est comme un système électrique en série, finalement. Il faut qu'on retrouve la faim pour retrouver la satiété.
Donc, on va maintenant parler toujours du docteur Catherine Senecal, qui a écrit « Ton poids, on s'en balance » ou « Libérer son enfant du culte du corps parfait ». Ça s'adresse à qui, ça, en fait?
Ça s'adresse
aux enfants?
Tout le monde qui est en contact avec des enfants. Donc, moins pour les enfants directement. Ça, il y a eu des très beaux livres qui ont été faits à une autre maison d'édition qui, justement, Lou aime le dessert et ce genre de BD-là pour les enfants pour parler de l'image corporelle et de poids. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour les adultes qui se questionnent à propos de comment nourrir les enfants qu'ils aiment, finalement. Donc, ça parle aux enseignants, aux parents, évidemment, aux grands-parents, aux éducatrices de CPE, donc à tout le monde qui est en charge de ces enfants-là, puis qui me posait une journée sur deux la question, autant des professionnels que des clients qu'ailleurs, comment on peut faire pour arrêter le cycle ici, pour ne pas transmettre justement ces problèmes-là de troubles alimentaires, de préoccupations sur l'image corporelle à la génération suivante.
Oui, c'est ça. Mais comment justement faire? Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que... Quels sont les signes qui montrent que l'enfant est en train de basculer?
Il y a plusieurs signes, tout dépendant de l'âge de l'enfant. Là. Ouais. Mais déjà, en partant, un enfant qui s'isole, qui va moins voir ses amis, qui change de groupe d'amis, qui va changer sa manière de s'habiller, qui va devenir irritable. Il faut garder en tête que les enfants qui ont des symptômes dépressifs, souvent, ça sort en irritabilité plutôt qu'en tristesse.
Ouais, oui.
Des petits signes comme ça qui font que notre enfant, on le reconnaît un peu moins. On peut se questionner à savoir qu'est-ce qui se passe. Là, on regarde, les boîtes à lunch reviennent comment?
Ah oui, c'est un bon indice, ça.
Est-ce que notre enfant veut prendre le contrôle de la cuisine et appliquer certaines recettes? Est-ce qu'il se met à collectionner les recettes? Est-ce qu'il se met à parler beaucoup de son corps ou à faire des commentaires sur son corps ou sur celui des autres?
Oui.
Donc, plein de petits indices.
Mais moi, je vous dirais qu'on en veut encore, on reste sur notre faim. Donc, allons écouter une chanson et on continue d'en parler tout de suite après.
J'aimerais tant briser vos rêves, vous détruire à grands coups de rire, vous piétiner comme un taureau, comme un taureau enragé. Un jour j'irai marier mes vices à ceux des dieux rois des malices, pour vous tuer à coups de couteau, à coups de couteau passionné. Tout ça sans votre permission, sans même vous demander pardon. J'ai surestimé vos cris, j'ai sous-estimé mes envies, j'ai surestimé mes torts, j'ai sous-estimé vos décors. J'ai mangé mon corps. J'aurais préféré marcher sur des chemins déjà pavés. J'aurais préféré jouer à un jeu où je pouvais gagner. Et toujours les remords viennent manger mon corps.
Viennent manger mon corps.
J'ai beau adorer vous détester, j'ai beau adorer vous lapider, j'ai beau adorer l'odeur de votre corps à demi brûlé. Toujours et encore les remords viennent manger mon corps. J'irai seul dans ma maison dorée, pour y lécher l'écorce des pommiers, oublier tous ces moments passés, à vouloir vous arracher un sourire trop cher payé. Cesseront de manger mon corps.
Docteur Catherine Sénécal, nous parlons actuellement de Ton poids en son balance, un petit livre très intéressant, très, très formateur pour les parents. Je voulais vous poser une question. Vous faites un parallèle entre manque de sûreté de soi-même devant les dictats des modèles corporels et troubles alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux minutes, je suis désolé, hein, c'est un peu court, hein, quelles mesures simples adopter pour que son enfant évite d'être promené de modèle en modèle, vous voyez, les poupées Barbie et autres, ou bien alors les Jagger, les John Joe, je ne sais pas quoi.
G.I. Joe.
Oui, merci, voilà, c'est ça. Ouais. Et briser le cercle vicieux de tous ces stéréotypes, quoi, finalement. Ouais.
Je vais faire de mon mieux pour...
Merci, c'est gentil.
Donc, pour les tout petits loups, là, vraiment ouais. Préscolaire, ouais. Primaire, ben déjà, on peut commencer par diversifier un petit peu l'offre des jouets. Donc, de se questionner à chaque fois qu'on va offrir un jouet à une petite fille, est-ce que j'offrirais le même jouet si c'était un garçon qui était devant moi? Donc, déjà, de se demander, est-ce que je suis en train d'offrir ce jouet-là parce que c'est une fille? poupées, etc. Donc, on le sait qu'on est porté à offrir comme adulte davantage de jouets qui sont plus sociaux. Là. Donc, au niveau des interactions sociales, la poupée qui se fait décorer, la poupée qui joue finalement avec l'autre poupée, avec des dialogues, et moins des jouets de construction, des jouets qui développent le côté visuo-spatial.
D'accord.
Donc, ça, il faut déjà qu'on se remette en question. Puis plus loin, donc préadolescence et adolescence, là, il faut se questionner sur ce qu'on dit, c'est-à-dire comme parent et comme adulte étant un modèle pour nos enfants, il faut qu'on se voit aller. Autrement dit, on a beau dire à notre enfant « tu es parfait, ton corps est idéal, ne change pas », si nous, comme adultes, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est un message où on critique notre corps et notre poids et on est toujours en train de se dévaloriser et de se comparer, à ce moment-là, c'est ça qu'on enseigne. C'est ça qui va rester.
Finalement, c'est du dit. C'est franchement dit.
Oui.
C'est-à-dire qu'on se dévalorise soi-même. Et en se dévalorisant soi-même, on montre l'exemple à l'enfant.
Exactement. L'enfant apprend par imitation.
La même chose.
Puis, j'allais dire, pour ne pas faire de jeu de mots, comme l'enfant va manger la nourriture, il va boire les paroles aussi de ses parents, il va ingérer tout ça d'une façon ou d'une autre et ça va avoir un impact.
C'est le mot.
C'est le mot.
Oui, tout à fait. Mais c'est ce que l'enfant apprend finalement par imitation. Il va reproduire le comportement de son parent en pensant que c'est normal de critiquer son corps, de dire qu'on est trop gros. Ou d'avoir des mots qui sont extrêmement durs vis-à-vis son poids ou son image corporelle. Donc, la première étape qu'on peut faire, c'est ne plus parler du corps négativement. Et le seul facteur, finalement, qui est universel et vraiment qui fait énormément de prévention, c'est qu'il ne faut jamais critiquer le corps d'un enfant ou son image corporelle. Jamais. Donc, s'il y a une chose à éviter, c'est celle-là.
Tout à fait.
C'est très plein d'enseignements.
Oui,
hein,
oui,
vraiment,
des beaux enseignements.
Beaux enseignements. Ça donne des bases aux parents. Bon, c'était court, c'est vrai, mais c'était important à dire. Et ça donne de bonnes bases aux parents et à tous ceux qui ont des troubles, d'ailleurs, de la nourriture.
Oui.
Donc, je rappelle que... Merci beaucoup, Catherine.
Merci.
C'est vraiment très gentil.
Merci.
J'aimerais bien vous revoir un jour parce qu'on pourrait peut-être approfondir encore ce genre de choses. Hein.
Certainement.
Donc, vous avez écrit deux livres, « Cessez de manger vos émotions » et « Ton point, on s'en balance », qui sont édités aux Éditions de l'Homme. Et merci encore et j'espère qu'on vous reverra.
Avec plaisir.
Au plaisir. Vous écoutez toujours « C'est bon pour la santé » sur les ondes de Canal M. François Baruel et moi-même, Camille Chai, sommes au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. Et juste avant d'aller à la rencontre de notre deuxième invité, voici le coup de gueule de Myriam Daguzan-Bernier qui s'intitule « La dictature de l'apparence ».
Qui dit mois de mai dit poil. Et oui, depuis 2 ans déjà, l'organisme Mes Poils propose aux gens, peu importe leur genre, de mettre à l'honneur les poils du corps. Aisselles velues, jambes poilues, tout le monde peut assumer sa pilosité sans complexe. Tout le monde, vraiment? Pas certaine de ça. En effet, les commentaires de gens horrifiés de voir des poils de corps, particulièrement sur celui des femmes, sont nombreux. On associe encore énormément poils avec saleté et odeur, bien que ceux-ci soient tout à fait naturels et si bien entretenus, non odorants et propres. Mais une femme poilue? Burk, c'est dégoûtant, si on en croit plusieurs personnes qui croisent l'image de femmes fières d'arborer leur duvet naturel. Il est fascinant de voir à quel point le corps des femmes est encore policé dans la sphère publique. Prenons par exemple l'annonce assez récente du remplacement de Catherine Perrin par Penelope McQuaid à Ici Première. Parmi les premiers commentaires à avoir été émis, on pouvait lire « Je n'aime pas son look ». Alors qu'elle sera à la radio, donc non visible, et que son style vestimentaire n'enlève ni n'ajoute rien à sa prestation d'animatrice. Et ça, c'est sans compter les remarques complètement déplacées sur sa minceur, trop extrême pour certains. Les femmes sont particulièrement touchées par ce type de commentaires qui ciblent le physique ou l'habillement. D'ailleurs, pouvez-vous nommer des femmes en surpoids, par exemple, qui sont mises de l'avant dans les médias? Il y en a très peu. On ne se le cachera pas non plus. Plusieurs femmes enceintes qui œuvrent à la télé ont déjà avoué avoir été tassées de projets, car une femme avec un gros ventre, même si on parle de donner la vie ici, ça passe encore mal à l'écran. De façon générale, il faut dire que les corps médiatisés sont assez peu diversifiés. On peut le dire, ils sont habituellement minces, beaux, sans handicap et blancs. Une chaîne de télé connue que je ne nommerai pas, vous pouvez chercher vous-même, c'est assez facile à trouver, vient d'ailleurs de refaire son image de marque au grand complet et présente une toute nouvelle équipe d'animatrices et d'animateurs. Les points communs de ces gens, en dehors de leurs compétences évidentes qui sont nullement questionnées ici, ces gens sont tous beaux, minces, jeunes, sans handicap et mis à part une seule personne, blanc. Je suis toujours sidérée de voir à quel point nous vivons dans une dictature des apparences, dans une société où tout est conforme, similaire. Il m'est fréquemment arrivé de faire référence à l'ouvrage de Martine Delvaux, Les filles en série, pour qualifier des corps et des apparences retrouvés partout, comme des modèles tous créés sur le même moule qu'on voit à répétition. C'est triste quand on y pense, car tous les corps sont valides, beaux, et il faut aussi les célébrer comme ceux que l'on glorifie tous les jours en nous présentant, encore et toujours, la même enveloppe corporelle en différents tons de blanc. Parce que côté diversité, corporelle, culturelle, on a encore des croûtes à manger. J'ai hâte au jour où on arrêtera de dire qu'il est courageux pour une personne de montrer son corps en surpoids ou avec un handicap, et que ce soit plutôt simplement normal. Que ce soit juste la réalité. Car au final, c'est bien ce que c'est. Une représentation parmi tant d'autres de corps tous différents, tous valides, tous essentiels. J'ai hâte qu'on arrête de formater notre regard à coups de standards de beauté et d'apparence précises et indélogeables et qu'on nous présente une réelle diversité. Pas parce qu'il faut être politically correct, pas parce qu'il faut répondre aux récriminations, justifiées, cela dit, de groupes militants, mais bien parce qu'on y croit et qu'on considère que tous les corps, toutes les physionomies et toutes les expressions vestimentaires qu'on décide d'adopter, et ce, comme on l'entend, peu importe son corps, soient acceptées et célébrées. Parce qu'un monde ouvert, éclaté, diversifié, inclusif, c'est tellement plus beau.
Et c'est maintenant le temps d'accueillir notre deuxième invitée, Stéphanie Perron. Bienvenue, Stéphanie.
Bonjour.
Alors, Stéphanie, vous êtes étudiante en écriture de scénarios et création littéraire à l'Université de Montréal.
Oui.
Vous avez toujours été une passionnée de l'écriture, hein, il faut le dire.
Oui, toujours, depuis que j'ai 14 ans.
Voilà. Et vous nous permettez, en fait, de profiter de cette passion-là, parce qu'en fait, suite à votre premier livre que vous avez publié en 2014, qui s'intitule « Né autre », vous avez reçu de nombreux messages de lecteurs vous disant que ça leur a fait beaucoup de bien de vous lire parce que ça les aidait à s'accepter tels qu'ils étaient.
Oui, en effet. Dans le fond, étant donné que c'était une autofiction sur l'homosexualité, moi, en fait, au secondaire, j'avais pas vraiment de livre là-dessus, donc je voulais m'identifier à quelqu'un. Donc, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Tout à fait.
Donc, j'ai décidé d'écrire un roman sur un peu mon vécu pour justement aider les jeunes à s'accepter comme ils sont. Mais là, c'est sûr qu'avec l'Internet, c'est aussi, ça se fait bien aussi. Dans mon temps, il n'y en avait pas, là. Mais sinon, lorsque les jeunes, ils m'écrivent pour me dire qu'ils ont accepté mon... Dans le fond, ils ont accepté leur orientation avec mon roman. Dans le fond, qu'ils se sont sentis mieux avec ça, puis moins seuls. Là, je me suis dit, wow, il faut que j'en écrive d'autres. Exactement.
Et c'est pour ça vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre deuxième livre qui s'intitule « Cordes raides », donc qui traite sur le syndrome borderline.
Oui, dans le fond, le trouble de personnalité limite ou borderline. Il y a beaucoup de monde qui vont utiliser ce terme-là. C'est la même chose.
Très bien. Et donc, ben, on veut en apprendre davantage avec vous parce que, je vais juste mentionner avant que votre livre « Cordes raides » vient donc des éditions de Mortagne, pour ceux qui voudraient se le procurer. Mais donc, sautons vite dans le vif du sujet. Premièrement, est-ce que ce livre-là, donc, oui, c'est une autobiographie aussi comme votre premier livre?
C'est une autofiction, en fait.
Okay.
C'est des termes semblables. En fait, autofiction, c'est qu'on entend que c'est un peu du vécu de l'auteur. Donc, c'est un peu mon vécu. Là, le personnage de fille, c'est moi quand j'étais un peu plus jeune. C'est avec des éléments un peu modifiés pour rendre le roman plus fluide. Et ensuite, ça va être aussi des éléments complètement inventés là, pour justement que le roman soit du début à la fin.
Une mise en situation.
Oui, exactement.
Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ici, ça doit être un processus de création quand même. Quel message vous avez voulu passer à travers ce livre-là par rapport au trait de personnalité limite?
Ben, en fait, c'est que j'ai connu en 2008 la collection Tabou. Puis là, je lisais les sujets, puis je me suis dit, mais mon Dieu, il faut qu'il y en ait un sur le TPL, là, c'est fou. On est tellement mélangés avant le diagnostic, après le diagnostic. Des fois, on se sent seul. Donc là, je me suis dit, il faut qu'il y ait un sujet là-dessus, mais il n'en sortait pas. Fait que donc, je me suis dit, j'ai décidé d'écrire là-dessus comme ce que j'avais fait avec Neyot. C'était surtout thérapeutique, là, écrire. C'est fou à quel point ça l'aide à tout sortir nos émotions, là, le méchant dedans. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, ça a de l'allure, ça se tient ce que j'écris. Donc, pourquoi pas leur soumettre une fois qu'il va être terminé. Et c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont contacté même pas 3 semaines après pour me dire qu'ils étaient intéressés à l'avoir.
Wow. Est-ce que vous pouvez décrire le syndrome borderline?
Dans le fond, oui, le trouble de personnalité limite, c'est surtout des... Ben, je vais y aller avec les grandes lignes, là. Dans le fond, c'est surtout des gens qui vont se sentir abandonnés. Et ils vont avoir peur d'être abandonnés, soit par des relations réelles ou même imaginées. Ils vont tellement avoir peur d'être laissés à eux-mêmes qu'ils vont... Certains, ils vont rester avec des relations malsaines en couple ou dans la famille, justement, pour pas avoir peur d'être tout seul.
Pour pas être abandonné.
Exactement. Donc, il y a le clivage aussi. Donc, tout est noir, tout est blanc. Il y a pas de zone grise.
Il y a pas de nuance.
Non, exactement. On va aimer une personne, le lendemain, on va la détester.
Sans cause.
Des fois, il va y avoir des causes, mais des fois, ça peut être juste... mettons un exemple, j'avais un ancien collègue qui faisait jamais le ménage au magasin. Donc, pour moi, je l'haïssais, il faisait pas le ménage. Puis le lendemain, il me remplaçait. Donc, c'est le meilleur collègue du monde.
Donc,
il n'y a pas de zone grise. Là. Okay. C'est je l'aime ou je l'haïs. C'est des gens aussi qui vont avoir de la difficulté à gérer leurs émotions. Ils n'auront encore pas de filtre émotionnel. Donc, soit que ça va être des gens qui vont être tellement heureux, ils vont être explosés. Mettons, ils vont exploser de joie, là. C'est pratiquement le terme, là. S'ils vont être tristes, ben ils vont pleurer pendant des heures, puis c'est la fin du monde. Puis il y a aussi la colère, là. Des sauts, là, les crises de colère, là, ça peut être tous les jours, c'est constant. On ressent constamment une colère, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient, on ne sait pas pourquoi on ressent ça, puis on ne sait pas comment la défouler. Donc, les gens qui ont beaucoup de colère, ils peuvent faire de l'automutilation, conduire dangereusement, boulimie, toxicomanie, ça peut même aller jusqu'au suicide. Tellement que les gens ne savent pas, avec un TPL, comment gérer leurs émotions comme il faut. Ça va être aussi des gens qui vont avoir des menaces, des gestes suicidaires, justement, soit parce qu'ils ne sont pas capables de gérer leurs émotions ou par peur d'être abandonnés. Là. Si tu me laisses, je vais m'automutiler, je vais me tuer si tu me laisses. Donc,
c'est du chantage aussi.
Mais c'est intense,
c'est une intensité.
C'est comme du chantage, mais c'est pas pour être méchant.
Mais
c'est par peur. Là.
Ouais.
Oui, oui. Écoutez, il y en a tellement à dire. Je vous propose qu'on ait écouté le Vox Pop d'Annick Fillion, donc qui traite aussi sur le syndrome borderline, et on continue d'en parler tout de suite après.
Parfait.
Mad Malik,
Jayla,
Jenna,
Angeline,
Audrey,
Clarisse,
Carmine,
je m'appelle Jeanne,
Geneviève,
Emile,
Adèle,
Dama,
Maëva,
Mara,
Alexandra,
Félix,
Emmanuel,
je m'appelle Dan,
Marianne,
Patrick,
Coralie,
Vicente,
Émine Aigul,
Anna.
Quels ont été vos premiers signes pour lesquels votre médecin ou vous-même avez soupçonné que vous aviez un trouble de la personnalité limite?
Ça a commencé très jeune, je dirais que j'avais 8 ans, quand je faisais énormément de crises de colère, c'est-à-dire que pour absolument aucune raison, je perdais complètement le contrôle, un peu le contact avec la réalité, puis j'avais ce besoin de destruction. Je m'appelle Camille, j'ai 18 ans et je suis étudiante en théâtre musical. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à soupçonner qu'il y avait peut-être un problème sous-jacent, justement, dans ma personnalité.
J'avais comme une boule dans l'estomac, là. Puis je voulais me battre avec tout le monde. Un jour, là, j'en pleurais, là. J'étais vraiment plus capable. J'ai appelé une de mes tantes, puis j'étais là, j'ai besoin de toi. Parce que ça faisait plusieurs fois que j'allais, tu sais, mettons, à la clinique, puis je disais, je vais pas bien. Puis eux disaient, mais va voir un psychologue. Puis j'étais comme, moi, mais c'est pas un psychologue que j'ai besoin, je vais pas bien. C'est en dedans, c'est profond, c'est. Il y a quelque chose. Je m'appelle Fanny et puis j'ai 29 ans. Je suis recherchiste pigiste à la télé et je suis décoratrice de gâteaux. Je suis diagnostiquée TPL puis ça va vraiment bien parce que j'accepte qui je suis. Tu sais, les petits autos pour enfants qu'on craint, là.
Oui.
Tu sais, mais c'est un peu comme ça que je me sentais parce que, tu sais, si tu te crains un peu, tu vas avancer pareil, tu vas foncer, tu sais. Mais si tu le crains vraiment, là, il fonce vraiment tout droit, mais il va toujours foncer. Même si tu l'enlèves de par terre, les roues, ils vont commencer à spinner pareil. Fait que c'était un peu comme ça que je me sentais.
Qu'est-ce que c'est pour vous que d'avoir un trouble de la personnalité limite ou un trouble de la personnalité borderline? Quels sont vos symptômes concrètement?
On a les deux extrêmes. On est de bonne humeur, on est fâché, on est découragé. Mario, 50 ans, travailleur salarié dans le domaine public.
Dans le fond, j'ai de la difficulté à gérer les émotions qui sont comme
tout le temps ressenti un peu fois mille, mettons, si je peux me permettre de dire ça. Là. Mon nom, c'est Laurence, puis je suis conseillère en facturation médicale. Constamment aussi avoir le sentiment que les gens font un peu semblant là de m'apprécier ou de vouloir être présent dans ma vie. Beaucoup aussi d'anxiété de séparation. La peur de l'abandon, là, c'est un des trucs qui caractérise beaucoup le TPL, puis chez moi, c'est très, très, très présent.
Moi, je suis vraiment énormément dans le tout ou rien, puis dans les extrêmes. J'ai zéro nuance de gris, tout est noir, tout est blanc. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 19 ans, puis je viens de terminer mes études collégiales en technique des services policiers. Puis en septembre, j'entame une technique en service d'incendie.
Aujourd'hui, comment ça vous affecte dans la vie de tous les jours?
C'est encore beaucoup de la destruction. C'est dans les dernières années, cette destruction-là, c'est plus centré envers moi-même. Donc, c'est là que ça a pu amener, malheureusement, de la mutilation que j'arrivais pas à contrôler. En état de crise, on se fait mal, mais on veut pas, au final, se faire mal. C'est vraiment un besoin de s'exprimer qui arrive pas à sortir.
Moi, je suis vraiment dans l'autodestruction. C'est qu'à chaque fois que quelque chose va pas bien, ben c'est de ma faute. Il faut que je me punisse.
Et quand vous vous dites punir, est-ce que c'est ça prend quelle forme?
La plupart du temps, c'est de la mutilation.
D'accord.
Je me coupe.
Et ça, vous vous en rendez compte après que vous étiez en état de crise à ce moment-là?
Je sais que je suis en état de crise pendant que je me coupe. Mm-hmm. C'est juste, je le fais parce que je le suis plus après. Si je le fais pas, je le suis encore, puis je sais pas comment sortir, puis c'est vraiment pas un sentiment plaisant d'être en crise.
Et ça, de se couper, ça libère. Ça libère. OK.
Ça libère.
Est-ce que vous les voyez venir, vos crises?
Non. Mais admettons que c'est une crise suicidaire, là, je sais que ma réaction est beaucoup trop forte, mettons.
Moi, ce que ça me fait, c'est que là, je vais être pas agressif au point de tout briser, mais je vais être vraiment... En dedans de moi, là, la colère va être tellement haute pour des fois, si peu, tu deviens extrêmement enragé, fâché, puis plus parlable pendant 2-3 jours.
Puis aussi, je dirais que c'est très difficile d'entretenir des relations. Puis je dirais que c'est le plus difficile à vivre parce que de réaliser qu'on fait mal alors qu'on veut pas, c'est assez difficile à vivre.
Il faut que j'apprenne à accepter que je vais avoir des crises encore puis qu'il va y avoir des situations plus difficiles. Mais sinon, là, quand c'est bien maîtrisé, que je vais voir mes intervenants, je prends bien ma médication pour contrôler mon anxiété, c'est vraiment là, j'ai une vie pratiquement normale. Là.
Dans le fond, quand je commence à vraiment pomper puis devenir un peu vraiment fébrile puis d'avoir envie de tout casser. Mmh. Maintenant, je prends mon auto puis je m'en vais. Tu sais, c'est niaiseux, mais moi, juste prendre la route avec la musique, ça me calme.
C'est votre façon de laisser passer la crise, finalement.
Oui, exactement. Puis tu sais, moi, c'est pas de la petite musique tranquille, là. Je vais prendre du AC/DC, puis c'est ça qui va me calmer. Non, mais c'est
on va essayer de retenir ça.
Alors, on est toujours en compagnie de Stéphanie Perron. Et Stéphanie, on parle de votre livre « Cordes raides ». Et il y a un extrait au tout début de votre livre que j'ai envie de partager aux auditeurs. En fait, je veux vous demander si c'est une façon pour vous d'aider les personnes à savoir c'est quoi être borderline, qu'est-ce qu'on reçoit quand on écoute le vox, qu'est-ce qu'on ressent, pardon, quand on écoute le vox pop et que quelqu'un dit c'est un ressenti fois mille. Vous, vous dites être atteint du trouble de personnalité limite, c'est avoir un volcan qui sommeille en nous sans pouvoir prévoir le moment de l'éruption. C'est une image forte.
Oui, dans le fond, c'est vraiment, je l'ai mis au début du roman, puis avant de commencer à écrire, c'est la phrase qui m'a inspirée pour écrire Cordes raides. Parce que c'est vrai, on a un volcan, on est souvent en colère, on ne sait pas pourquoi, puis à un moment donné, ça prend un rien, puis ça explose, mm-hmm. Dans le fond. Puis comme dans le Vox Pop, ça disait, ça peut durer des heures, ça peut durer des jours, qu'on est en colère, on ne sait pas pourquoi. Donc, on utilise des moyens pour sortir notre frustration. Souvent, ce n'est pas les bonnes. C'est comment c'est une phrase forte, justement, oui. Parce que je voulais démontrer d'une façon plus concrète c'est quoi être d'avoir un trouble
d'état. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur, oui.
Exactement.
Mais quels sont les signes avant-coureurs ou les symptômes qu'on peut caractériser, qu'on peut identifier?
Pour le TPL?
Oui.
Oui, comme j'avais dit tantôt, dans le fond, j'avais oublié de dire aussi l'impression du vide. On se sent constamment vidé, mais on ne sait pas. C'est comme un vide qui vide. Là. On est sur notre lit, puis on se dit, je m'ennuie, je ne sais pas ce que j'ai, je me sens rien.
On se sent rien.
Exactement. On dirait qu'on a comme plus de passion, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait plus puis on ressent ce colère-là, puis on n'est plus capable de penser.
Mais est-ce qu'on se déteste dans ce cas-là?
Ça peut arriver, oui, qu'on puisse détester, qu'on puisse dire qu'on ne sert à rien, tout ça, mais aussi, c'est juste surtout une impression d'ennui. D'ennui, on ne sait pas, là. On ne sait pas ce qu'on a, puis on ne sait pas ce qu'on a besoin, là.
Mais non, alors, vous savez pas de ce dont vous avez besoin, mais est-ce que, d'abord, est-ce qu'on peut dire que le syndrome borderline, est-ce que c'est une maladie?
Il est dans le DSM, donc dans le dictionnaire de la santé mentale, sauf que, dans le fond, il est dans la section des troubles de personnalité limite. Mm-hmm. Donc, on peut pas guérir le trouble de personnalité limite, c'est quelque chose que je vais toujours avoir avec moi. Mais il peut exister des médications pour aider, soit avec l'anxiété, parce que les TPL, ils peuvent souvent avoir aussi des problèmes d'anxiété. On peut avoir soit des antipsychotiques, on peut aussi avoir des antidépresseurs pour aider, justement, comme béquilles. Mais ce qui reste vraiment le plus avantageux, exactement, pour le TPL, c'est vraiment de suivre une thérapie. Okay. Moi, j'ai suivi une thérapie cognitivo-comportementale pendant 2 ans, puis c'est vraiment ça qui m'a aidé à reprendre du mieux sur moi, à travailler, motivation, travail sur soi. Puis à un moment donné, on réalise que finalement, le TPL, c'est une partie de nous, mais on est capable de la contrôler à un moment donné.
Tout à l'heure, vous avez parlé justement de la peur d'être abandonné, la peur d'être exclu. Est-ce que vous faites une relation ou est-ce que vous avez trouvé une relation entre ce que vous avez vécu enfant et les résultats maintenant ou cette peur d'être exclu?
Dans le fond, quand j'ai vu ma travailleuse sociale, elle m'a demandé si dans mon enfance, j'avais vécu un abandon. Moi, je m'en souvenais plus. Là, quand j'étais jeune, j'ai demandé à ma mère, en fait, et elle m'a dit que j'avais tellement peur qu'elle m'abandonne que ma première journée de garderie, j'ai fait de la fièvre, puis elle était obligée d'aller me rechercher. Puis je pense que ça m'a marqué, mais moi, je m'en souviens pas, mais j'ai vu un lien, exactement. Adolescente, j'avais tellement peur de perdre mes amis que je savais pas comment... Les relations, je savais pas comment ça fonctionnait. Là. J'avais tellement peur de les perdre, que je faisais tout ce que mes amis demandaient.
Oui, c'est ça. Vous vous conformiez au modèle qu'elles recherchaient.
Exactement, parce que moi, j'avais peur d'être abandonnée, justement. Mm-hmm. Puis c'est là, au secondaire, que j'ai commencé à avoir des crises de colère sans aucune raison. J'avais des troubles de l'humeur en même temps. Je me sentais vide, j'avais des problèmes d'automutilation. Je ne savais pas comment gérer mes émotions. Là.
Mm-hmm. Et est-ce que de prendre les médicaments, on se sent réellement mieux? Après?
Moi, au début, je me suis sentie mieux parce que j'avais une dépression majeure. En fait, quand j'ai reçu le diagnostic à 23 ans, mais j'avais aussi un trouble d'anxiété généralisé et une dépression majeure. Donc oui, les médicaments, ils m'ont aidé pour ma dépression, mais pas pour mon TPL. Donc à un moment donné, en suivant plus en plus la thérapie, mes médicaments, moi, ils finissaient par me nuire parce que j'étais toujours fatiguée, ça me coupait l'appétit, ça me donnait des nausées. Puis à un moment donné, j'ai essayé avec l'aide de mon médecin.
Ça, sont des anxiolytiques, ça.
Oui, c'est ça.
Mais en fond, c'est les effets secondaires des médicaments. Ouais. Je sais pas, je suis toujours dans le 1% des gens qui reçoivent des effets. Là. Donc, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, avec mon médecin, on s'est mis en commun accord là, pour essayer de diminuer mes doses jusqu'à temps que je sois capable de complètement arrêter et seulement avoir la thérapie. Mm-hmm. Aujourd'hui, oui, là, j'ai aucun médicament. Puis ma thérapie, elle m'a grandement aidée là, pour mon TPL.
Et comment, parce qu'on parlait aussi de... On a besoin de se défouler. Mais comment est-ce qu'il y a des façons de se défouler, mais de façon sécuritaire?
Dans le fond, moi, j'utilisais beaucoup l'écriture. Ma travailleuse sociale, elle me demandait... en fait, elle me suggérait d'avoir un journal intime, que j'ai toujours encore. Mais écrire ce qu'on ressent, écrire ce qu'on aime, ce qui nous passionne, tout ça. Écrire notre colère aussi. C'est mieux de tout défouler sur une feuille de papier, puis quitte à tout la déchirer après, là, l'acheter au feu, tout ça, faire des petits morceaux, que de dire en pleine face là, ce qu'on pense des autres, là, sous le coup de la colère, parce qu'après la colère, il y a la culpabilité. Ben, oui. Excusez-moi, j'ai la misère avec ce mot-là. La culpabilité. Donc là, après, on sent mal d'avoir crié après. Ouais. Donc, beaucoup l'écriture. Il y a des gens qui vont aller prendre des marches, il y a des gens qui vont faire de la musique, de la peinture. Faites, dans le fond, il faut faire ce qu'on aime.
Oui.
Ce qu'on aime ou se défouler. Il y a des gens qui vont faire du yoga, de la méditation. Mm-hmm. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Moi, il faut que ça bouge aussi. Donc, écouter de la musique, aller bouger dehors, courir.
Trouver ce qui nous convient.
Exactement. Ou l'été, faire du patin gualigné, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons de gérer ces moments de crise-là. Sans avoir des comportements dédommageables.
Oui. Ben, écoutez, Stéphanie Perron, merci beaucoup d'être venue démystifier avec nous le syndrome borderline. Merci aussi d'écrire des livres qui aident les personnes à s'accepter telles qu'elles sont. Et je rappelle le titre de votre livre qui est « Corde raide » des éditions de Mortagne. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
J'ai besoin de quelque chose d'immoral, de quelque chose parce qu'il est vide, puis moi aussi. Le téléphone, c'est tout le contraire. Je voudrais qu'il sonne, puis lui, il veut se taire. Que le temps, mon pote, c'est pas soi. Ce serait plus le fun.
Maintenant, nous allons de revenir vers Camille, qui justement nous parle d'introspection. Et ça tombe bien, puisque vous avez parlé d'introspection.
Oui.
Vous avez découvert plutôt les causes de cette anxiété, de cette inquiétude d'être abandonnée.
Oui,
et donc, Camille va maintenant nous parler de cette introspection.
Tout à fait. Puis j'en profite pour dire aussi que Stéphanie Perron est restée avec nous en studio. Donc, c'est une belle discussion qu'on peut avoir les trois ensemble. En fait, j'ai envie de vous partager un extrait du livre de Paulo Coelho qui s'appelle « Le manuel du guerrier de la lumière ». J'aime beaucoup ce livre parce qu'à chaque page, il y a un extrait avec un principe, une idée d'introspection. Et celle que j'ai choisie aujourd'hui pour vous se trouve à la page 34. Et donc, je la cite. « Un guerrier de la lumière constate que certains moments se répètent. Fréquemment, il se voit placé devant des problèmes et des situations auxquelles il avait déjà été confronté. Alors, il est déprimé. Il songe qu'il est incapable de progresser dans la vie puisque les difficultés sont de retour. « Je suis déjà passé par là », se plaint-il à son cœur. « Il est vrai que tu as déjà vécu cela », répond son cœur, « mais tu ne l'as jamais dépassé. » Le guerrier comprend alors que la répétition des expériences a une unique finalité, lui enseigner ce qu'il n'a pas encore appris. Je trouve que c'est très beau. J'ai fait un lien rapidement avec mon expérience que j'ai vécue quand je faisais de l'escrime en fauteuil roulant pour l'équipe nationale. À chaque fois que je perdais un combat, je me disais, ben oui, c'est que, en fait, il faut que j'apprenne à observer ce qui s'est passé et à déceler la stratégie pour, au prochain combat, être capable d'avancer et d'avoir compris ce qui se passe. C'est un peu comme n'importe quoi dans la vie, hein. Toutes les situations qu'on peut vivre, on est confronté aux mêmes choses, on est frustré, on perd un peu confiance en nous, mais alors que non, il faut avoir foi en nous. Donc, je trouve ça intéressant de se dire, ben, changeons notre regard sur la situation pour découvrir et avancer un petit peu plus.
C'est ce qu'on dit souvent, qu'on a un jeu de cartes dans les mains. Et finalement, juste en changeant l'ordre des cartes, on peut peut-être améliorer les choses.
Eh bien voilà, c'est encore une belle autre image. Mmh. Je ne sais pas, Stéphanie, qu'est-ce que ça vous inspire, cet extrait? Ça vous parle?
Ben, dans le fond, oui, là, parce que c'est sûr que, mettons, je vais donner un exemple à l'école. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup anxieuse. J'avais beau avoir, même si les cours étaient différents, dans le fond, mes problèmes d'anxiété et TPL, c'était toujours, toujours là. Mais en changeant, ben, moi, c'est plus thérapie, là, je vais dire, mais en changeant comme ma façon de, soit de, dans le fond, de gérer mes émotions, même si mon école, en fait, j'ai repris l'école, mais en ayant comme, entre guillemets, là, mes nouvelles cartes.
Oui,
là,
voilà, mais c'est ça.
Exactement. Ben là, ça va mieux maintenant parce que justement, j'ai changé ma façon de gérer mes émotions. Là.
Mais c'est beau, vous voyez, je trouve que ça donne de l'espoir. Je pense que c'est très important de croire en nous, même quand on est par terre, quoi, quand on vient de tomber.
Tu as parfaitement raison, Camille. Toujours croire en soi.
Oui, on est toujours capable de se relever.
Mais bien sûr.
Donc, écoutez, c'est ce qui met fin à notre belle émission. Alors, j'en profite pour remercier nos intervenants, nos invités d'aujourd'hui et tous ceux qui travaillent sur cette émission. Alors, je remercie Dr Catherine Sonécal, Stéphanie Perron, Annick Filion, Myriam Daguzan-Bernier, Catherine Bourderon, notre chroniqueuse et recherchiste, Jean-Sébastien Liliberté à la mise en onde, et sans oublier mon cher François, mon co-animateur.
Ma chère Camille Chai.
Merci beaucoup, puis merci à vous d'avoir été des nôtres. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour
C'est bon pour la santé.